Ben bonjour à tout le monde. Le conseil municipal est ouvert. On va procéder à l'appel pour voir si le quorum est atteint. Donc Isabelle Touzard présente, Gilles Cuzin
présent,
Juliette Papier-Camard
présente,
Gilles Chicot
présent,
Séverine Ségismond donc absente, donne pouvoir à Gilles Cuzin, Corinne Durand. Mélanie Arnal,
présente.
Hélène Bonnécuel,
présente.
Dominique Baril,
présente.
Guillaume Garcin,
présente.
Laurent Mailloux,
présente.
Jean-Claude Mouret,
présente.
Claudine Moyal,
présente.
Patrick Ortigoza,
présente.
Véronique Omared,
présente.
Laurent Pratt,
présente.
Laurence Rousseau,
présente.
Bernard Senot
présente.
Et Yolande Théron.
Présente.
Merci à tous, donc, le quorum est largement atteint. On va. Vous avez donc l'ordre du jour sous les yeux. Est-ce qu'il y a des observations sur l'ordre du jour? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc il est approuvé à l'unanimité. Il nous faudrait un secrétaire de séance. On va essayer de tourner. Qui se propose? Dominique Barine. Merci Dominique. On fait tourner les feuilles de présence. Hein. Donc vous avez reçu le compte-rendu de la séance de la dernière séance du 10 juillet. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu?
Je signe sur.
On va se regarder rapidement si ceux qui n'ont pas regardé.
C'est bon.
Pas d'observation?
Non.
Bernard?
Je vais dire que je suis là, mais par contre, il y a une faute d'orthographe. C'est le petit budget d'habilitif. Je dis ça parce que je l'ai lu attentivement.
D'accord. Ok. On va corriger. Moyennant cette petite correction, est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu est adopté à l'unanimité, merci. Donc on va passer au... Donc on n'a que trois points aujourd'hui. On va commencer par l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous avez reçu tout ce règlement intérieur. C'est un règlement intérieur qui... un peu type, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est celui qu'avait déjà été adopté par le conseil municipal lors du mandat précédent. Il explique la périodicité des séances, notamment un conseil municipal doit se tenir, l'écart entre deux conseils municipaux ne doit pas excéder 3 mois. Il décrit les modalités de convocation. Donc au domicile des conseillers, l'ordre du jour, il explique comment vous avez accès au dossier de façon réglementaire si vous souhaitez. Bon, en tant que, voilà, vous passez souvent à la commune, mais réglementairement, officiellement, la façon dont vous pouvez avoir accès à tous les dossiers en mairie. La question des questions orales, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est abordé surtout quand il y a une opposition. Bon, il s'avère que nous, on est une seule et même liste, mais bon, on ne sait jamais. La question orale, c'est quand un conseiller municipal souhaite poser une question bien précise au maire. Il y a un certain délai pour l'adresser, pour que le maire ou les élus concernés puissent préparer la réponse. Ou si la question survient en cours de conseil, ben la question orale est officiellement posée et la réponse survient au conseil suivant. Il y a aussi la question des questions écrites. La présidence, ben c'est le maire hein, qui assure cette présidence. Le quorum. C'est aussi dans ce règlement intérieur que l'on précise tout ce qui est secrétariat de séance. L'accès et la tenue du public. Pour votre information, le public, quand il est présent, normalement, n'a pas le droit d'intervenir lors d'un conseil municipal, sauf si le maire autorise expressément les personnes à prendre parole. Les déroulements de séance, comment se tiennent les débats, qu'il peut y avoir des suspensions. Voilà la question des votes. La question du compte-rendu des débats. Donc là, c'est une petite spécificité muriéloise que peut-être Nathalie, tu peux rappeler. On fonctionnait déjà comme ça au mandat précédent. Procès-verbaux, compte-rendu, oui. Et comment on va fonctionner?
Donc, en principe, pour les communes de plus de 3500 habitants, sur les conseils municipaux, on dresse un procès-verbal qui est l'intégralité des débats qui sont enregistrés sur chaque délibération. Et ensuite, on les édite et à la fin du conseil, tous les conseillers présents signent le procès-verbal de séance qui est rédigé par un élu désigné en début de séance. Et ensuite, on affiche dans les 7 jours un compte-rendu qui est en fait un copier-coller des délibérations qui ont été prises et qui est affiché pour que le public sache voilà, ce qui a été voté en conseil. Nous, on fait différemment. On a intégré au procès-verbal et au compte-rendu, on a fait un mix qui nous permet de faire l'intégralité de la délibération, l'intégralité des débats, et on publie ça dans les 7 jours pour que voilà, l'information là, soit la plus exhaustive possible, c'est-à-dire que du coup, la population prend aussi connaissance de la délibération et du. Enfin, on fait un seul document plutôt que d'en faire deux et d'en faire un le soir même de la séance de conseil.
Voilà, ces comptes rendus sont aussi publiés. Donc vous le savez, les conseils municipaux sont tous enregistrés et sont disponibles sur le site web. C'est aussi inscrit dans le règlement intérieur. C'est une clause. On n'est pas obligé, hein. C'est une disposition qu'on a prise. Et sur le site web également apparaissent les ordres du jour des conseils municipaux, donc avant chaque conseil, et les comptes rendus, les procès-verbaux valant compte rendu, qui sont aussi tous sur le site web. Que dire de plus? Bon, il y a aussi une partie sur le. Alors, sur la spécificité aussi de Muriel, mais là, ça nous concerne moins lors de son mandat. C'est que vous savez, dans les bulletins municipaux officiels, dans les communes de plus de 3500 habitants, il y a un encart qui doit être réservé aux listes d'opposition, enfin à chacune des listes d'opposition ou des groupes, quand il existe des groupes. Et c'est pas obligatoire pour les villes de moins de 3500, mais on l'avait instauré quand même au mandat précédent, même si on n'était pas fait beaucoup d'usage. Voilà. Et donc là, bon, il n'y a pas de liste d'opposition. Donc, ça ne se pose pas, mais on l'a laissé dans le règlement intérieur, au cas où une opposition émergerait. Et voilà, un petit peu rapidement, mais bon, vous l'avez déjà eu. Je ne sais pas s'il y a des observations par rapport à ce règlement intérieur qu'on se doit d'adopter, donc règlement intérieur du conseil municipal. S'il n'y a pas d'observation ou de remarque, je le mets au vote. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient, donc il est adopté à l'unanimité. Merci à tous. Maintenant, je vais donner la parole à Gilles Chicot, pour les demandes de subvention au département pour 2020. C'est ce qui justifie, vous voyez, l'ordre du jour n'est pas très important, mais on était tenu quand même, pour ce point-là, de tenir le conseil maintenant pour pouvoir faire la demande de subvention en temps et en heure. Gilles, je te donne
un. Ok. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail, puisqu'on a présenté la globalité des travaux en réunion MNA. Voilà, donc je rappelle les différents postes pour l'objet d'une demande de subvention. Donc, la mise en conformité du système d'assainissement autonome du bâtiment agricole des quatre pilas, donc avec une estimation de 22 000 euros. Voilà, qui sera peaufiné dans l'attente notamment de l'étude de sol qui doit être réalisée sur le site. et du tracé définitif du réseau. Voilà, bon, ça j'ai travaillé avec Veolia là-dessus, donc ça sera confirmé. Il faut qu'on lance l'étude de sol.
Peut-être Gilles, tu peux faire un petit point sur où on en est, comme il y a Yves qui est et qui explique aussi.
Ah oui,
du coup, on en est.
Alors,
il est où on en est du bâtiment des quatre pilas.
Alors, le bâtiment des quatre pilas. Actuellement, donc, on a une miellerie qui est installée et qui est la seule activité du bâtiment. Elle n'occupe pas la totalité du bâtiment. Elle occupe une partie à rez-de-chaussée pour l'activité professionnelle et le logement de fonction qui est lié à l'activité qui se trouve à l'étage. Donc, il nous reste de la surface à rez-de-chaussée et il nous reste de la surface à l'étage que l'on veut mettre en location au profit d'une entreprise liée à l'agriculture, bien évidemment. Pour cela, on a un problème d'assainissement, puisque actuellement la miellerie est équipée d'une microstation qui traite ces eaux d'égout, hein, et qui les rejette ensuite sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un micro-épandage, j'imagine. Donc, ce que l'on veut faire, c'est mettre en conformité la globalité de notre bâtiment, puisqu'on en est propriétaire, et c'est maintenant notre responsabilité, en mettant une microstation qui va être susceptible de récupérer l'ensemble des effluents du bâtiment. Donc, on a estimé un équivalent de 10 personnes, d'accord, puisqu'en fait, ça s'estime comme ça. Donc, à partir de là, on a un réseau à créer en pied de bâtiment qui va probablement traverser la voie, l'ancienne départementale, et qui va se déverser dans un champ d'épandage qui serait donc entre la voie et la bergerie actuelle. Voilà. Donc ça, c'est ces travaux, donc on a estimé à 22 000 euros, qu'on doit programmer maintenant très rapidement, puisqu'en fait, on va avoir du mal à mettre à la location un bâtiment s'il n'y a pas l'assainissement qui est lié, quoi. De même, il faudra faire la même chose avec l'eau, hein, puisqu'il faudra des compteurs divisionnaires, évidemment, par activité. Alors aujourd'hui, la miellerie doit faire des travaux dans le bâtiment. Ces travaux, donc, je l'ai eu au téléphone encore hier, ils sont sur les plans. Il faut qu'on travaille avec ces plans pour qu'ils ne nous pénalisent pas l'utilisation du reste des locaux. Alors, je schématise, il ne faudrait pas qu'on fasse toute la façade avant, puis qu'on ait l'arrière du bâtiment pour une autre activité. Il faut que la deuxième et éventuellement la troisième activité ait un accès, et de la lumière, et un réseau d'égout et de l'eau. Donc on a des plans à faire, on doit se mettre d'accord sur ces plans. Par ailleurs, ils veulent modifier le bâtiment, il faut créer une terrasse au premier étage. Donc je leur ai demandé de travailler le dossier de permis de construire et puis de nous présenter la maquette, d'aller voir Gilles si besoin au préalable pour voir un petit peu les pièces nécessaires au dossier. Je leur ai d'ailleurs transmis, pour information, un projet équivalent fait par mon cabinet pour qu'ils voient un petit peu tout ce qu'il fallait faire au niveau des plans, des coupes, des façades, des notices de présentation. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui en cours. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une commission qui s'occupe de rechercher des locataires potentiels qui seront intéressés par une activité agricole dans ce bâtiment. Alors ça peut être un boulanger, ça peut être un tas de choses, voilà.
Un
atelier de transformation, par exemple, puisque ça a été évoqué, quelqu'un qui, par exemple, transformerait des fruits en confiture, enfin voilà, quelque chose qui serait donc lié à l'agriculture, et évidemment, le plus local possible, hein, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est en route, c'est plein tube, plein fer, comme on dit, et il faut qu'on aille vite, parce qu'aujourd'hui, le bâtiment est prêté à titre gracieux à la miellerie. Et on a donc des baux à mettre en place avec notre avocat, envers la miellerie, et puis envers les futurs locataires qui nous feront rentrer un petit peu d'argent pour payer ces travaux-là, parce qu'on va avoir des frais importants à faire. tant au niveau de l'assainissement, peut-être qu'au niveau de l'équipement du bâtiment lui-même, puisqu'il va sûrement falloir le cloisonner, faire des parois coupe feu, le mettre en sécurité, amener l'eau, amener les goûts. Voilà, et c'est un projet important. C'est un projet important. Voilà pour cette demande-là. La toiture de l'école, bon, c'est... là, on a le devis, on a fait chiffrer une entreprise, on a quelques fuites, quelques tuiles qui ont glissé. Donc on doit reprendre certaines prestations, notamment la couverture, une partie de couverture, et puis une touche de cheminée qui a été mal posée, en fait. Voilà, et qui générait quelques fuites dans l'école.
Et ça, ce sera quand ?
Et ben ça, il faut que le devis soit signé, et puis on envoie à l'entreprise, et puis voilà. Le devis est fait, il n'y a plus qu'à signer. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas attendre la subvention, l'accord de subvention pour lancer les travaux ? Voilà. Donc, il faut attendre l'accord puisqu'on ne peut pas faire les travaux avant de demander la subvention. Ensuite, réaménagement du hall de la mairie. Donc, comme vous le savez, on a envisagé de regrouper les fonctions d'accueil entre la poste et la mairie elle-même, puisqu'en fait, ce ne sont pas des postes à plein temps, je dirais. Donc pour cela, s'il y a une personne qui gère l'accueil des deux unités, il faut une banque d'accueil. On ne peut pas imaginer qu'elle passe d'une banque d'accueil à l'autre, de l'autre côté de la pièce. Donc du coup, on envisage de modifier le hall en bas, de gagner un petit peu de surface, peut-être sur le sas, et puis de remettre une banque qui ferait donc poste et accueil mairie. Voilà. Donc là, on a mis un budget de 6 000 euros. On reçoit la poste le 19 octobre, enfin courant octobre, pour voir les aides qu'elle pourra nous attribuer pour faire ces modifications, déplacement du coffre, mise en place d'une nouvelle banque, déplacement d'une baie vitrée, voilà. Donc ça, c'est pour le hall de la mairie.
Je peux peut-être intervenir ici. Toujours sur la mairie, bon, c'est pas chiffré ici, mais... il y aura encore un autre volet de réaménagement lié aux archives, puisque la production, le classement des archives, ça avance bien là, avec Sandrine. On va devoir avenanter, parce qu'il y a encore d'autres archives qui n'ont pas été repérées, qu'il va falloir traiter. Mais il va y avoir aussi, pas maintenant, mais dans un deuxième temps, comment optimiser le local d'archives, déjà avec des rayonnages pour optimiser au maximum l'utilisation jusqu'en haut de tout l'espace du local d'archives. Mais ce local d'archives, même en l'utilisant au maximum, ne suffira pas à stocker toutes les archives. Donc il va y avoir aussi dans le hall de la mairie, il y a encore des évolutions qu'il va y avoir.
Oui, il y a peut-être le bureau aussi de...
Voilà.
Le bureau de police qu'on pourrait peut-être réaménager pour qu'il soit un peu plus convivial. Voilà.
Donc il y a pas mal de réaménagements.
Voilà.
Est-ce qu'à l'occasion de ces travaux, tu ne travailles pas aussi sur la porte ?
Alors la porte, ça fait... Ouais. Oui, ça, la porte, c'est pareil, j'attends le devis pour la mise en conformité de la porte qui laisse passer l'air. Et ça, c'est une urgence, c'est des frais annexes. J'attends le coup.
C'est une urgence qu'à 20 ans.
Ouais, non mais là ça va se faire. Là ça va se faire.
Merci.
Ensuite, mise en sécurité du jardin partagé. Donc, par signature d'un bail amphithéotique, donc on a pris possession et responsabilité du jardin, du futur jardin partagé avenue des Jardins. Donc à partir de là, on est responsable de ce qui peut se passer dessus. Il se trouve qu'on a un puits qui est positionné en rive du ruisseau. Ce puits n'est pas protégé, donc le risque de chute dans le puits existe. Donc le poste de 1600 euros qui a été mis en place là, il consiste à sécuriser ce puits, soit par la mise en place d'une clôture périphérique qui ferait garde-corps, soit par la mise en place d'une grille scellée sur le puits qui serait scellée avec du béton pour éviter tout risque de chute. Voilà.
Peut-être on en profite, fois j'en profite, ça permet de faire le point. Jean-Claude, une petite information sur le projet jardin, où on en est actuellement.
Le questionnaire qui circule auprès des habitants, puisqu'on l'a distribué la semaine dernière, j'ai des retours, une trentaine de retours, avec, j'ai regardé rapidement, Sur les 30, il y a 28 réponses qui considèrent que ce projet est utile. Parmi ceux qui considèrent que c'est utile, il y en a 8 qui sont intéressés par le jardin. Et parmi les 8, il y a 5 personnes qui seraient intéressées, éventuellement intéressées pour participer à une association pour gérer un parc.
Donc, la réunion, ce sera
bon, la réunion de restitution de l'enquête donc, sera programmée le 16 octobre.
18h30. Ok. Ok. Ensuite, mise en place d'un organigramme. Alors, j'ai reçu hier la société Vachette, pour pas nommer, qui a mis au point un système de canons. Les canons, c'est les serrures en fait, que vous avez sur les portes. Des canons qui sont programmables. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, les services techniques, par exemple, ont 5 trousseaux de 20 clés, quoi. Je schématise, mais on ne doit pas en être loin. Et pourquoi ? Parce que chaque bâtiment a des clés, et puis chaque bâtiment a des clés. Il faut qu'il y ait Jean-Marc qui...
Il y a quelqu'un qui veut rentrer.
D'accord. Chaque bâtiment a ses propres clés, et c'est un petit peu compliqué. Par exemple, le centre aéré, on m'a raconté que ce qui s'était passé il y a un an, ou je crois que c'était l'an dernier, ouais. Ils ont été obligés de changer 2 fois les canons des portes parce qu'il y a quelqu'un qui était parti avec la clé. Cette personne ne travaille plus là. Évidemment, on ne peut pas laisser une clé se promener dans la nature. Donc le fait de changer tous les canons 2 fois, ben, ça représente, je ne sais pas, peut-être 400 euros de dépenses. Voilà. Et puis il faut remplacer toutes les clés. Enfin, ça représente du travail. Alors il existe des systèmes maintenant très perfectionnés où on peut programmer les clés. C'est-à-dire que depuis un ordinateur, on va dire ben, telle clé va ouvrir tel bâtiment, telle porte, de telle heure à telle heure. Et en plus, ces clés conservent la mémoire d'accès. C'est-à-dire que si on peut savoir qui est rentré, à quelle heure, sur les, je crois, 750 dernières ouvertures. D'accord ? Donc, ce n'est pas du flicage. Mais ça peut quand même être utile. Et l'intérêt, c'est que si quelqu'un part avec la clé, quelqu'un qui travaille plus à la commune, part avec la clé, ben, il suffit de déprogrammer sa clé et puis il n'ouvre plus rien.
Voilà. C'est une clé magnétique ?
Alors, il n'y a pas de pile dans le canon. Ce sont des canons européens, ça s'appelle. C'est des canons classiques que vous voyez sur les portes. Par contre, c'est la clé qui est équipée d'une pile. Voilà. Alors, à ce sujet, ce qu'il va falloir, alors, vous voyez, j'ai mon compte rendu là, donc ça s'appelle ce système e-click, d'accord. Donc ce sont des cylindres européens, donc des cylindres classiques qui s'adaptent sur les portes qu'on a partout, d'accord. Il n'y a pas de pile dans le cylindre, ça je vous l'ai dit, il n'y a pas de câblage électrique non plus. On peut, quand on est à l'intérieur du bâtiment, on peut ressortir avec la clé sans aucun problème, sauf sur certaines clés, certains canons, si on veut, par exemple, des demandes spécifiques. Si vous avez par exemple une école contre une crèche, la porte qui va être entre les deux, on peut contrôler les accès des deux côtés. D'accord ? Ces canons, après, c'est un peu technique. Hein. Si on perd la clé, évidemment, on peut déprogrammer la clé. C'est-à-dire que par exemple, on a une clé mère. Une clé rouge, j'appelle ça la clé rouge, une clé mère qu'on insère dans un boîtier, ce boîtier relié à un ordinateur, donc ça peut se faire en mairie, il y aurait quelqu'un qui serait responsable de l'organigramme, et là, on peut piloter toutes les clés qui sont dans la nature. Voilà. Il existe des clés spéciales qui vont sur l'extérieur, d'accord, donc qui résistent évidemment aux intempéries. Voilà, une pile a une autonomie en gros de 30 000 manœuvres, okay, et en gros de 3 ans. Voilà, ce sont des piles plates, telles que comme on a dans les balances, les micro-balances, en fait, etc. Voilà. Ces cylindres, on peut les mettre, on peut avoir des cylindres à double entrée, c'est-à-dire une clé de chaque côté. On peut avoir un bouton molleté d'un côté pour les issues de secours. On peut avoir une simple entrée. On peut avoir même ces canons sur une boîte aux lettres, sur une porte de tableau électrique. Voilà. Alors, pour faire notre étude, il va falloir, l'objectif serait d'équiper notre premier bâtiment là, qui va être livré, le bâtiment, on va dire la maison de l'association, il n'y a pas donné de nom, enfin moi j'appelle comme ça, voilà, avec ce système de clés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre les plans du bâtiment, il faut repérer dedans les associations qui vont y travailler, il faut repérer les portes, donc le cloisonnement, et puis il faut repérer donc le nombre de canons nécessaires. Et à partir de là, l'entreprise va nous faire une proposition de prix pour ce premier bâtiment. Sachant que il faudra qu'on étudie un peu le truc, il m'a donné des prix unitaires, c'est qu'en gros, un cylindre coûte 380 euros, et il me dit ça c'est le prix public, c'est pas le prix du prix. D'accord ? Après, les clés coûtent 53 euros pièce. Alors les clés, peut-être que c'est à chaque assos de se payer sa clé.
Ça permet aussi peut-être de...
C'est à discuter. Non, parce qu'à la fin, ça fait un chiffre. Ça. Voilà. Et il y a une formation pour le logiciel et tout à mettre en place. Voilà. Et il y a également un abonnement. Voilà. Alors c'est vrai que c'est lourd, mais à l'usage, c'est quand même... Un jour, il faut commencer, je pense. Et puis étaler ça sur 10 ans, peut-être. Et faire la totalité du bâtiment public. Puis à chaque fois que vous avez un nouveau bâtiment, ben évidemment, on l'équipe avec ce type de cadre. Voilà. Alors, il faut qu'on travaille sur les plans, il faut qu'on travaille sur qui va utiliser les locaux, le nombre d'assos et tout. Et puis, on fait une simulation et on aura un devis. On demandera à l'entreprise si vous voulez de venir nous présenter le truc. Bon, c'est très technologique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui maintenant s'équipent comme ça, en Pignan notamment, qui s'équipent comme ça. Et nous, on a quand même pas mal de bâtiments. Quoi. Mm. Voilà. Ensuite, arrosage automatique du jardin des abeilles. Bon, alors, comme je vous l'avais expliqué, le jardin des abeilles, c'est le petit jardin où on a la ruche là-bas. Donc, dans le souci d'économie de temps pour les employés des services techniques, on a envisagé, plutôt que de remplir des cuves d'eau potable et de venir les déverser sur ces espaces verts, notamment sur celui-ci, voilà, on a envisagé d'utiliser l'eau de la fontaine romaine, de mettre une petite pompe dans la fontaine romaine, on a déjà l'électricité qui est en place, de mettre un petit programmateur, soit à pile, soit sur réseau, de traverser le chemin béton en faisant une saignée et en balançant un fourreau, et puis de mettre un système d'arrosage automatique par goutte à goutte, aérien, sur l'ensemble du jardin. Voilà. Donc ça permettrait de faire gagner du temps aux gars, puisque moi j'ai vu Jésus qui faisait l'arrosage, qui a passé quasiment une matinée à remplir deux fois la cuve, et puis venir arroser avec son tuyau, voilà. Donc le temps, c'est pas pour limiter le nombre de personnes au service technique, mais c'est pour optimiser le temps, pour faire des choses plus utiles et plus constructives, notamment sur les écoles et sur nos bâtiments. Voilà, donc là, le budget, on a mis 2000 euros. Moi, j'ai rendez-vous lundi matin avec les gars, là, on va commencer à en parler, on ira sur place peut-être, et puis on va réfléchir au système, voilà. Donc on donne une subvention pour nous aider à faire ce projet. Projet d'alimentation en eau des jardins partagés, alors ça c'est un vaste sujet. Donc les jardins partagés auront besoin d'eau, ça on est tous d'accord là-dessus. Donc il y a plusieurs manières d'avoir de l'eau, sachant qu'on ne souhaite pas utiliser de l'eau potable évidemment à moyen terme. Sur ce jardin, l'idéal serait d'utiliser soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de notre forage qui fonctionne bien. Alors j'ai demandé à, à Stéphane qui me dit que depuis qu'il travaille à la mairie, il n'a jamais, il n'y a jamais eu de manque d'eau pour le stade. On n'a jamais été à ça. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à ce sujet. Faire un forage sur site, utiliser l'eau de la fontaine romaine, utiliser l'eau du forage que nous avons sur le stade. Voilà. Dans un premier temps, ce qui a été envisagé, c'est de demander un comptage d'eau, puisque il faudra quand même, le jour où si on a du public qui vient sur place, il faudra peut-être un point d'eau pour que les jardiniers puissent s'abreuver. Donc en fait, il a été décidé, c'est ça les 1500 euros, c'est de demander un piquage et de mettre un compteur d'eau sur site. Voilà.
Est-ce qu'il y a des observations ? Des demandes, on a déjà mis ça en réunion préalable. Donc là, c'est les travaux qui seraient affectés aux demandes de subvention 2020. Hein ? On est bien 2020, donc on arrive à la fin de l'année. Mais il y a encore temps de pouvoir faire passer ça sur... Alors ça ne veut pas dire que tous les travaux seront engagés d'ici la fin de l'année, mais au moins, sûrement en bonne partie, en grande partie. Les subventions FAIC sont assez souples en fait, quand même par rapport à d'autres subventions. C'est-à-dire là, dès lors qu'on aura demandé, qu'on aura envoyé, on pourra quand même commencer certaines choses. S'il n'y a pas d'observation sur tout ce petit.
Pardon ? Sur le compteur d'eau et le piquage qui est envisagé dans un premier temps, ça serait le piquage sur le forage actuel ou
sur... Ah non, sur l'eau potable.
Sur l'eau potable
et sur la ville des jardins.
Ouais. Il y aura besoin d'eau potable, alors, de toute façon, sur ce jardin.
Sous réserve, parce que moi, ouais. j'ai appelé M. Mimoso hein, de Veolia, de Suède. Hein, ouais. Il m'a dit, écoute, fais une demande officielle auprès du service. Mais ça risque de coincer, parce qu'à Condon-Terral, il y a eu un refus pour des jardins partagés. Et ça a été très compliqué.
Bon. On le met là, et puis on va peut-être
alors,
avancer.
On l'a mis, voilà. Il est vrai que... Bon, moi j'avoue
c'est
que...
C'est le cas du ballon d'eau,
non ? Ouais, c'est avec le SBL qu'il faut...
C'est Suez,
mais en amont, c'est le SBL.
Au-dessus, c'est le SBL. Voilà, il y a eu des grandes discussions sur comment interagir.
Si on peut le mettre là, ça n'engage pas, c'est juste une autorisation, ça ne veut pas dire qu'on le fera.
En fait, au départ...
Vaut mieux mettre plus que moins dans ces tableaux,
ça veut pas dire... On ne verra jamais 1500 euros le bras et chemin. Le bras et chemin, moi j'ai fait faire le devis sur la chaîne des moulins pour le terrain d'à côté de chez moi, juste pour mettre le tuyau, le coffre, sans compteur, sans arroser à faire le devis de l'affaire, j'ai un devis de 3 280 euros.
D'accord.
C'est fait, ce que tu as fait.
Les ports de prix sont 20 fois ou 30 fois la valeur que ça vaut.
Et c'était pour un branchement privé, d'une parcelle privée ?
Oui. Et il y avait 4 mètres de tuyau à mettre. Donc ils n'avaient pas d'enrobé, pas de découpe à faire, pas de blocage. Ils en avaient pour 2 heures de boulot à peu près, d'après ce que j'ai vu les mecs qui ont fait juste à côté. Et bien, chez ces devis, je l'ai à la maison, je peux te le montrer. 3 280 euros pour faire 4 mètres de tuyau et mettre une niche nue. 50 heures d'eau.
Alors, il est vrai que au départ, j'ai tracé un réseau depuis le forage existant du stade. Et j'ai calculé la fourniture qu'il nous fallait pour amener de l'eau depuis ce forage.
Moi, ce que je proposerais bien, Gilles, si on est d'accord, c'est qu'on
enlève...
On enlève cette ligne-là, parce que la question de l'eau, elle est quand même très complexe. La question de l'eau sur les jardins partagés. Je pense qu'il va falloir prendre le temps, c'est la fin de l'année, l'année prochaine, de bien caler ça. Donc, il y a d'autres subventions hein, qu'on peut demander par ailleurs. On n'est pas obligé de tout mettre sur le FAIC. FAIC ou FEC ou FAIC, je ne sais pas comment on fait. FAIC, c'est plus joli. Moi, ce que je proposerais bien, c'est peut-être pour l'instant de mettre ça en stand-by, si vous en êtes d'accord, et qu'on reprenne bien ensemble. Notamment, voilà, il va y avoir des questions aussi à regarder dans quelle mesure le ruisseau est classé. Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder côté police de l'eau et tout. Donc, moi, ce que je proposerais peut-être, à moins que tu veuilles vraiment.
Comme ça, on reprend cette question. On a le temps. Ouais. À la limite, le compteur d'eau, tu le demandes au mois d'avril, ouais. Tu l'as au mois de mai. Hein.
Et de bien vérifier tout ça et de monter un dossier.
juste peut-être une petite précision par rapport à cet espace-là, rappeler qu'il n'est pas destiné uniquement à des jardins partagés.
Bien sûr.
C'est de faire aussi un espace
public,
de convivialité, d'accueil du public, etc.
Ouais, ouais.
Et où la qualité de l'eau peut être un élément important.
Ouais.
Oui, parce que ce qu'on disait en aparté là, avant le conseil, c'est que imaginons que personne ne veuille faire un jardin. On a zéro candidat. Je veux dire, c'est pas un problème. On fait un parc.
Mmh.
On ne va pas laisser ce terrain en friche.
Ah, bien sûr.
On a la chance de l'avoir. On fait un projet.
Ouais.
Et je pense que dans tous les cas, faisons un projet. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par un petit bout de terrain, eh ben, ça devient un jardin partagé.
Ouais, tout à fait.
Donc on pourrait raisonner comme ça. Mmh. Comme ça, on lance notre projet.
Oui, oui. Donc moyennant peut-être, peut-être cette ligne, hein, vous êtes d'accord?
Oui, ouais, d'accord. Hein,
est-ce qu'il y a d'autres observations sur les drapeaux? Oui, Patrick.
Moi, sur le premier, dans les adjoints communaux de Castilla, on en a parlé l'autre jour, il faudrait qu'on s'intéresse aux bâtiments existants, donc les autres propriétaires de Castilla, pour voir l'assainissement qu'ils ont.
Oui.
Parce qu'il faudrait quand même, si ce qu'on estime qu'ils n'ont rien du tout qui va les enfoncer apparemment, il faudrait que ça s'arrête. Quoi. Donc il faudrait leur demander de se mettre en conformité avec la réglementation.
J'ai quelques réponses là-dessus. Donc on a regardé le permis de construire d'une personne justement qui habite sur place. Donc dans son permis de construire, il a une fosse septique et ensuite, au-delà de la fosse septique, effectivement, un système d'évacuation. Par contre, ce qui nous pose souci aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, on a travaillé cette semaine, hein, c'est sur les deux autres bâtiments qui sembleraient être utilisés à des fins d'habitation, mais qui, eux, n'ont aucun assainissement. Il a déjà été fait un procès-verbal dessus et une vérification. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on s'y penche, parce que entre le bâtiment qu'on va, nous, mettre en assainissement, mais en face, il faut aussi que les particuliers fassent leur assainissement, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas, et ça, c'est sûr, on a eu le constat dessus.
On a déjà fait des procès-verbaux, hein, pour constater la pollution dans le...
Mais on a regardé aussi les permis de construire, on a regardé aussi les utilisations aujourd'hui. Donc,
avant de s'adresser au propriétaire, il faut qu'on soit bien au carré par rapport à... Mais c'est important, hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations, par contre, par rapport à cette demande de subvention?
Juste ça, c'est des subventions de l'État.
Département. C'est le département, ça.
Et en général, les réponses, c'est à quel... c'est rapide.
Avant la fin de l'année, ouais, on aura...
Sachant qu'on peut, en supprimer une, on dépend de l'autre, on peut...
Ça, c'est souple. Bon, c'est pas sur des gros volumes, hein. C'est vraiment les subventions faites pour les entretiens, les petits travaux, les entretiens, voilà. Quand on a des grosses opérations, on va chercher d'autres...
C'est régulier chaque année.
Et on a quand même un budget pour le petit entretien, en plus de celui-là, quand même. Je dis n'importe quoi, il faut remplacer une porte.
Ah oui, alors on met quand même des opérations.
Et ce budget, il est de combien?
Cette année, je ne sais plus qu'on en avait mis.
40 000.
40 000
euros.
Et après, chaque année selon les projets.
Oui, ça part vite.
Chaque année, selon les projets, l'enveloppe est déterminée.
Je mets au vote, donc. Par rapport à cette demande de subvention, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors pour le troisième sujet, rapidement, donc c'est une décision modificative. Donc Séverine n'est pas là, c'est un point finance. Donc en fait c'est un jeu d'écriture, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'économie de notre budget, je dirais, globalement. Mais il s'agit de positionner sur une ligne différente, tu me dis si c'est bien ça, Nathalie, alors tous ces jeux d'écriture, ces modifications, on les fait à la demande de la trésorière, de la trésorerie, qui nous dit, voilà, attendez, ça a été... Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, parce que les trésorières ouvriers changent, et donc du coup, les règles changent, souvent. Hein, Laurence, toi qui as eu ça à faire avant... Voilà, donc ça n'a pas d'incidence sur notre futur résultat, c'est juste des modifications de ligne. Donc ça concerne des frais d'études qui nous font imputer à un chapitre 041, article 2031, et des travaux, donc tout ça c'est des dénominations liées à la compta en M14, qu'on doit affecter sur les lignes en question. Hein, au chapitre 21, 041, article 21, 318, 2096, 036 euros. Voilà, chapitre 21, 041, article 21, 38, haute construction, 11 400 euros. Et chapitre 21, 041, article 21, 28, autre agencement, 32 556 euros. C'est-à-dire que, en fait, le... Voilà. C'est le... Je ne sais pas si vous voulez plus d'explications, mais c'est vraiment de la technique comptable. Donc c'est important qu'on le décide en conseil municipal, ça permet d'ouvrir voilà, les lignes comptables en question et d'y affecter les dépenses. Est-ce qu'il y a des observations? Par contre, oui, pour votre info, on aura une autre décision modificative au prochain conseil municipal qui est fixée le... On en profite, comme ça, il vous aura déjà l'info. C'est en novembre. On a fixé
le 26, jeudi
26 novembre, où là on aura une décision modificative vraiment en consistance. Voilà, bah, les points alors, du jour sont... Il y a juste deux petites questions diverses qu'on voulait aborder rapidement peut-être. Oui. Oh, excusez-moi, j'ai pas mis vote. Alors, par rapport à cette décision modificative, qui est contre? Qui s'abstient, donc elle est adoptée. Elle est invitée, merci Gilles. Donc peut-être un petit mot, Mélanie, pour nous présenter le jour de la nuit en point.
Alors déjà, ça ne peut pas s'appeler le jour de la nuit, parce que la manifestation nationale du jour de la nuit a été reportée. Donc du coup, l'ALEC qui nous soutient quand même a proposé d'appeler ça soirée sans éclairage public. C'est comme ça que ça va être nommé dans les flyers et les affiches.
C'est moins poétique.
C'est moins poétique, on est d'accord. Mais voilà. Attention, il y a une petite erreur sur la date, c'est le 10 octobre. Voilà. Pour vous résumer, le programme est prévu à 19h45. Donc les gens s'inscrivent par Internet. On est un peu en retard sur les... En attendant, on aura demain la réponse de la préfecture pour savoir si on a vraiment l'autorisation de faire cette manifestation.
Je crois qu'elle l'a reçue, Armelle, aujourd'hui. Ah. C'est bon. Hein.
Ok. Ouais. Ouais, je l'ai eu ce matin, elle n'avait pas, oui.
Oui, elle l'a reçue aujourd'hui.
Ah bon, ouais, c'est bon. Okay. Donc, les gens arrivent à 19h45. Il y a 45 personnes maximum qui s'inscrivent. Il y a une petite présentation de monsieur de la LEC. Si vous avez, tu veux faire un petit discours, voilà. Et il y a un animateur qui va nous montrer des petits films sur les chauves-souris. Après, on a prévu d'aller dehors sur le parking pour essayer de voir les chauves-souris. Après, il y a un conte qui aura lieu au jardin de la mairie. Et après, on revient ici pour une conférence sur les étoiles. Avec, et les derniers pourront observer avec un télescope. Alors, je ne sais pas si on se mettra en bas. Donc, demain, on reçoit les flyers et les affiches qui seront mis chez les commerçants, au marché et à la mairie. Alors, il y a une petite question qui est quand même importante, c'est que on a décidé, pour simplifier auprès du service technique de la métropole, on a décidé de ne pas allumer du tout cette nuit-là, le village, tout le village. Aussi, on avait décidé ça parce qu'on s'était dit, si on veut plus tard faire une extinction, ça fait une première journée, une première expérience, et on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on en avait parlé avant de discuter avec les gens de la métropole, sur les choix, est-ce qu'on éteint, est-ce qu'on laisse allumer une partie du village, ou pas, enfin dans le futur, hein, si on veut quelque chose de pérenne. Donc, si on part sur la dernière fois qu'on en avait parlé, mais je pense que c'est encore à débattre,
plus tard. Mais pas ce soir,
mais on avait dit que peut-être que déjà on diminue, on change tous les ampoules et on diminue. Mais du coup, c'est important de bien prévenir la population pour cette soirée du 10 octobre, parce que là, on va se retrouver dans le noir. les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Donc j'ai demandé, j'ai demandé à la LEC qu'il le rajoute sur les flyers et les affiches. Attention, le village sera éteint dans sa totalité toute la nuit. On va voir avec le Midi Libre s'il peut faire un petit article. Et il faudra donc l'indiquer sur les panneaux à l'entrée du village, sur le site de la mairie et sur la page Facebook. Et il y aura un arrêté municipal aussi pour l'instruction et aussi pour que le parking soit clôturé le samedi soir. Donc, il y aura un besoin peut-être de deux autres personnes avec moi pour préparer un peu la soirée.
On va voir ça. Voilà. Sinon, c'était juste pour informer le conseil, surtout comme c'est enregistré, comme ça les personnes savent.
Voilà.
Ça va se passer. Et puis, voilà l'information. Juste quand même, peut-être pour compléter, dans notre engagement, lors de notre campagne, on s'est engagé à initier l'extinction, ou tout du moins la limitation de l'éclairage public, pour des raisons d'économie d'énergie et puis aussi de préservation de la biodiversité. Donc ça, on commence en effet, comme tu l'as dit, à prendre les contacts avec les services pour voir qu'est-ce qui est le plus opportun à faire. L'extinction totale, parfois, c'est pas forcément le plus opportun. Ça peut être plutôt la diminution la diminution forte de l'éclairage selon les situations, les cas de figure, les possibilités techniques. Voilà, donc ça se réfléchit. L'idée de cette journée de la nuit, jour de la nuit au départ, c'est vraiment de la sensibilisation.
Oui.
Pour dire, attention, la nuit, il y a de la biodiversité, il y a des bestioles, il y a tout un monde de la nuit qui est là et qui est perturbé quand on est avec des éclairages intempestifs la nuit. C'est plutôt cette sensibilisation. Ouais. Problème, c'est qu'avec le Covid, on a décidé de le maintenir, mais on ne pourra pas toucher énormément de monde vu les jauges qu'on a. Donc, pour répondre à ce que tu me disais, Gilles, j'en profite pour rappeler, donc aussi pour Yves, où on en est avec les arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire que dans les salles municipales, on peut toujours organiser des événements avec les associations ou nous, la municipalité, il n'y a aucun souci. Dès lors que ces événements ne sont pas festifs, et dès lors qu'ils ne sont pas de l'activité physique ou sportive. Mais tout ce qui est tranquille, on va dire, réunions, conférences, projections, spectacles même, dès lors qu'on respecte les jauges, les nouvelles jauges qui doivent nous permettre d'être à un mètre de distance. Et dès qu'on organise, donc les associations peuvent... On a communiqué à toutes les associations... qui savent, donc aujourd'hui, les associations sportives, l'activité sportive et physique de la commune font leur activité à l'extérieur. Malheureusement, elles ne peuvent plus le faire dans les salles. C'est interdit. Par contre, à l'extérieur, c'est toujours possible. Donc, on a travaillé avec elles pour voir comment elles pouvaient réutiliser le jardin de la mairie, le stade de foot, etc., pour quand même maintenir leur activité. Et les associations qui ont des activités intérieures, autres, peuvent le faire en respectant les gestes barrières, les distances, le nettoyage, etc. Donc ça, c'est vu avec elles. On espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Et on ne va pas arriver à des mesures encore plus drastiques. Et pour les événements, je dirais, inhabituels, comme le jour de la nuit ou quoi, on a maintenant notre protocole avec la préfecture, un CERFA qu'on remplit. C'est la policière municipale, Armelle, qui remplit ses demandes avec les organisateurs, on transmet à la préfecture qui nous renvoie son accord. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Voilà, donc là, le jour de la nuit a été organisé et validé par la préfecture. Bon, c'est important de maintenir quand même de l'activité, on ne va pas laisser le village mourir de toute activité, c'est très pénible, mais on en est là, c'est vrai que ça n'a pas touché beaucoup de monde, mais bon, on va essayer.
En parlant d'utilisation de salle, il y a une demande de l'internaute.
Bon, on ne va pas voir ça, on va se faire la preuve. Ça, tu vois ça avec Armelle. C'est Armelle, la policière, qui maintenant organise, centralise toutes les demandes d'utilisation des salles et les événements. Et rapidement, peut-être, on n'en est pas encore là, mais en quoi on s'engage, Gilles, sur Ville Prudente. Ça aussi, c'était un engagement de campagne.
Oui.
Alors, village prudent, ou ville prudente, puisque c'est un label. C'est un label qu'on souhaiterait donc mettre en place au niveau de Murviel. Alors, ce label, dans un premier temps, c'est surtout pour lutter contre l'insécurité routière. Alors, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est de plus en plus un village de plus en plus traversant. On s'est aperçu aussi que les gens qui avaient des bouchons sur la 750 et qui voulaient aller sur l'ouest passaient plutôt par le village. Les vitesses n'étant pas toujours respectées, la prudence n'étant toujours pas respectée, et en plus on a une école qui est en proximité d'une voie très passante, il nous semble intéressant de sensibiliser les gens, et pour ça le label Village Prudent va nous permettre, à travers la prévention et la sécurité routière, de sensibiliser les gens. Donc il y a plusieurs actes à faire, il y a tout un engagement, qui nous permettra donc d'ensuite pouvoir avoir ce label. Donc il faut prendre des mesures de prévention pour instaurer notamment des indicateurs. Il faut en même temps prévoir des aménagements ou voir les aménagements aujourd'hui qui existent ou qui seraient susceptibles d'être mis en place. Amener aussi des actions d'information et de sensibilisation auprès des usagers et en même temps auprès des employés municipaux. C'est parce que c'est important aussi que l'ensemble de les acteurs du village soient sensibilisés dessus, et après donc amener une politique de sécurité routière, surtout pour les véhicules qui traversent la commune et ceux qui sont aussi sur la commune. Voilà. Dans ce cas-là, il y a une réflexion qu'on a eue qui était de faire passer le village dans une 30. Zone 30. C'est quelque chose qui peut nous amener assez rapidement justement à ralentir les gens et à sensibiliser les gens à ce que la vitesse, finalement, est nocive, pas uniquement au niveau accidentogène, mais au niveau du bruit aussi, au niveau de
la pollution.
De la pollution. Donc, et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est la question de
l'année. Et c'est un engagement de campagne aussi.
Et c'est un engagement de campagne. On va œuvrer pour la voir.
Voilà, c'est juste une information pour expliquer qu'on est dans. Ça, c'est un processus un peu dans la durée aussi. Avec tout ce volet aussi, prévention.
C'est une question. Si on adhère à ce label, c'est toute la commune qui est à 30.
Oui.
Il n'y a pas des portions à 30.
Alors, on peut faire des portions à 30 ou pas à 30. Après, c'est un choix qu'on peut discuter, on peut regarder. Mais on va dire que si on met l'ensemble du village à 30, l'intérêt, c'est d'avoir une cohésion par rapport aux automobilistes. Parce que si un automobiliste arrive, qu'il a une partie à 30, une partie à 50, une partie à 30, une partie à 50, il est perturbé. Il ne sait pas à quelle vitesse il doit rouler. Et ça peut créer justement ces survitesses où les gens ne savent pas trop où ils sont, où ils vont. Et on le voit déjà sur la route quand on conduit tous. Hein. Une fois, on a le panneau à 70, une fois à 90, maintenant c'est à 80. Après, ça passe à 120. On ne sait jamais trop où on en est. L'ensemble du village à 30, en tout cas dans son périmètre, permettra aux gens de savoir que toute cette zone est à 30. Comme ça, il n'y aura pas de perturbation et les gens ne seront pas amenés à vouloir. Ils pourront rouler plus vite, ça c'est autre chose, c'est délicieux, mais le but c'est de les sensibiliser, de dire voilà, tout l'ensemble du village est à 30, il vous faut ralentir pour des raisons de pollution, de nuisance sonore et de nuisance aussi accidentogène.
Je me suis mal exprimé, on parle bien des zones urbanisées.
Oui, urbanisées. Zones urbanisées.
Ah non, commune, on ne parle pas du confort de la commune.
On parle de la zone urbanisée. En fait, un village à 30, c'est à partir du panneau d'agglomération. Voilà. Donc, d'où la réflexion à avoir sur le positionnement des panneaux d'agglomération. Pour ne pas mettre un panneau d'agglomération et avoir une ligne droite derrière sans habitation pendant des centaines de mètres. Donc, il y a toute une réflexion sur le positionnement des panneaux d'entrée en agglomération par arrêté. Et ensuite, ça permet de pouvoir plus, de façon cohérente, mettre le passage à 30.
Et l'aménagement aussi des routes. Puisqu'il y en a une route, effectivement, tout à fait raison, une ligne droite sur 200 mètres, c'est difficile de la tenir à 30. Sauf si on a un aménagement visuel, c'est pas forcément un aménagement mobilier qui va amener des choses, mais visuel avec des traçages ou autres, qui font ralentir les gens. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. Mais tout ça, c'est justement des choses qu'il faut discuter, qu'il faut voir avec les services concernés.
On pourrait faire une proposition pour faire mieux accepter cette mesure, c'est de faire sauter tous les dodans. Et si c'est obligatoire de relier à 30 et si les gens respectent et ils respecteront, il n'y aura plus besoin d'avoir tous ces besoins. Peut-être que c'est une façon de faire des rêves plus facilement.
Voilà, c'est pas facile. Hein, parce que sur les... ouais, on va arrêter là parce que. Mais sachez quand même pour votre information sur les fameux 3 dodanes de la route de Pignan. Quand on a été élu le premier mandat en 2014, j'ai eu des courriers au département pour leur demander de supprimer ces dodanes qui sont hyper dangereux. Bonjour. Voilà, c'était très très long. Ensuite, ces départementales ont été transférées à la métropole. Rebelote, redemande. Oui, mais nous allons faire un diagnostic sur l'ensemble des 31 communes de la métropole, de tous ces dispositifs qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas conformes. Donc, sachant que la métropole aussi le recule un peu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on fait des études, on est sachant, et dès lors qu'on est sachant,
on est responsable.
Donc, on en est là. Ça fait 6 ans, et je pense que même ceux qui étaient avant nous, peut-être non, je ne pense pas, mais depuis 6 ans en tout cas, on demande à ce que ces dodanes de l'avenue de la route de Pignan, notamment, soient enlevées, et on en est toujours là. Ouais. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle inertie derrière ces... Ouais,
c'est facile à créer, c'est difficile à retirer.
Moi, je suis visé pareil, on va dire, on va essayer de faire sauter au moins les deux qui sont en face à la maison.
Voilà.
On garde celui qui est à l'extérieur un peu après le garage, qui est cohérent, puisqu'on est quand même arrivé à la maison, et il y a pas de... Il y aura moins de bruit, parce qu'il est plus loin. Mais ceux qui sont devant la maison, il m'a dit, verbalement, il m'a pas écrit, comme quoi il prenait un compte qu'il allait nous les faire sauter.
Bon. Espoir fait vite. Inch'Allah, comme ils disent. Hein. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ces points divers, ben je vais déclarer le conseil terminé. Merci à tous.